Notre Bible dans l'évangile de Jean. Alors, nous avons vu depuis plusieurs semaines les je suis de Jésus. Combien y en a-t-il? Aujourd'hui, c'est jour de révision. 7. D'accord? Toujours jour de révision. 7. Et donc, on va les dire tous les 7, mais à l'envers. Hein? On va remonter depuis, donc. Le 7e se trouve dans Jean, chapitre 15. Et c'est je suis le vrai cep. Celui d'avant, c'est Jean chapitre 14. Et c'est « Je suis, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Celui d'avant, c'est le chapitre 11. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. » C'est ça? Oui, je crois que c'est dit comme ça, hein? Oui, à peu près. Je crois qu'il y avait... Il vivra même s'il meurt. Voilà. Voilà. Ensuite, donc c'était 11. L'avant, c'était encore au chapitre 10. Et c'est « Je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. Et chapitre... C'est chapitre 10 toujours ? Oui, chapitre 10, verset 9, c'est « Je suis la porte ». Ensuite, on remonte, chapitre 8. « Je suis la lumière du monde ». Et puis, chapitre 6, pain de vie. 6:35, je suis le vrai pain, je suis le pain de vie. Hein, d'accord? Chapitre 6, ça. Donc, 6, 8, 10, 2 dans le 10, 11, 14 et 15. Il y a 15 jours, on avait vu ensemble, donc je suis le cep, mais je reviens là-dessus parce que bon, c'est tellement, Jésus dit tellement de choses là que j'aimerais... que l'on puisse reprendre un peu ce passage. Donc, on va lire Jean chapitre 15. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jean chapitre 15. Et on va lire du verset, on va être attentif à la lecture, verset 1 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 15, verset 1. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, et puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jusque-là, la parole de Dieu. Donc, j'ai des petits papiers pour vous, avec des petits trous, juste pour que vous puissiez avoir quelques petites notes. Tiens, on peut distribuer ça. Je pense que ça, c'est bon. Ouais. Merci. Une par personne. Ah. On va donc considérer, on avait considéré pas mal de choses la dernière fois. On avait vu la métaphore, hein, les différentes images que Jésus utilise dans cette, parce qu'il faudrait dire parabole, dans ce texte en tout cas. On avait même des images au mur, hein, avec les vignes. Hein, on était presque parti aux vendanges, je crois, un petit peu. Ça, c'est bien, bien la France, hein, avec ses vendanges dans le sud-ouest, dans d'autres régions aussi. Dans ce passage, on rappelle que Jésus parle à qui? À qui est-ce qu'il parle? À ses disciples. Et ils sont où? La chambre haute, hein, chapitre 13. Jusqu'à probablement 17, il s'agit, en tout cas 13, 14, 15, 16, c'est le discours, dernier discours, on appelle ça souvent le discours d'adieu de Jésus, discours dans la chambre haute. Donc c'est quelque chose qu'il dit dans l'intimité, c'est pas quelque chose qui est prononcé devant une foule, c'est à ses disciples, et c'est peu de temps avant que Jésus ne soit livré, hein. Chapitre 13, il disait déjà « L'un de vous me livrera », et puis à ce moment-là, vous rappelez, quand il parle dans le chapitre 15, Judas est déjà parti. Donc c'est ce que Jésus dit, tout ce que Jésus dit est important, mais particulièrement ce qu'il dit en plus dans ces heures-là, c'est pour encourager ses disciples qui vont se retrouver dans la tristesse, peut-être, probablement vont éprouver de la solitude. Eh bien, il dit ces choses pour les encourager, hein. D'accord? Au chapitre 14, il disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Il dit donc toutes ces choses pour encourager ses disciples. Il les encourage ici avec cette image de la vigne. On avait considéré que, dans l'Ancien Testament, cette image était très utilisée et elle désignait, qui était désigné par la vigne de l'Éternel? C'était Israël. Et que Jésus, quand il dit « Je suis le vrai cep », la vraie vigne, on pourrait dire, il n'est pas en train de dire que les autres vignes sont fausses, mais il dit qu'il est vraiment celui qui accomplit pleinement le rôle que doit jouer la vigne. Donc il est celui qui est l'aboutissement de toute chose, hein, comme quand il est dit dans la Bible, à chaque fois qu'on en parle, souvent il y a le qualificatif de vrai, le vrai tabernacle. Ça veut pas dire que celui qui était dans le désert était un faux, mais ça veut dire que voilà, hein, il ne faisait que diriger les regards, qu'anticiper le vrai tabernacle qui devait venir, hein, le véritable qui accomplira vraiment la volonté de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là aussi que Jésus dit ici, je suis le vrai cep. Le père, c'est le vigneron, et qu'est-ce qu'il fait? Il émonde, il prend soin de sa vigne. Il émonde pour que la vigne puisse porter plus de fruits. Alors, je voudrais juste souligner que Jésus parle de deux types de sarments. Il parle des sarments qui ne portent pas de fruits, verset 2, et puis des sarments qui portent du fruit. D'accord? Et donc, je voudrais juste peut-être élargir un petit peu plus ce soir sur les sarments qui portent du fruit. Alors, il dit quelque chose de particulier concernant ces sarments-là. Il dit que le sarment qui porte du fruit, qu'est-ce que le Père fait? Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et donc, il va donner un petit peu, et il dit, on sait bien, il le dit plus loin, que les sarments, c'est qui les sarments? Oui, voilà. Là, ici, en particulier, ce sont ses disciples, ce qui dit « Vous êtes les sarments ». Et puis, bien sûr, on pourrait dire par ricochet, maintenant, les sarments, ce sont les croyants qui sont attachés à Christ. Donc, c'est nous, les croyants, qui sommes les sarments. Et donc, quelle est la mission? Alors, le premier point ici que je souligne, c'est quelle est la mission des sarments, la mission des chrétiens? Alors, si on lit Jean, on l'a lu, hein, 15, versets 1 à 16, comptez combien de fois il est fait allusion aux fruits. Rapidement. Voilà, un petit travail. Vous avez trouvé? autant de réponses différentes qu'il y a de personnes dans la salle. Ça me rappelle mes salles de classe, ça, oui. Moi, j'en ai trouvé 8, si on compte, voilà, 8. Mais vous avez peut-être mieux compté que moi, hein. D'accord? 8, c'est ça? Il y en a 8. Donc, ça veut dire que ici, c'est quelque chose d'important, d'accord? Le nombre ici indique que Jésus dit quelque chose d'important. 8 fois, en quelques versets, en une quinzaine de versets, il est question de porter du fruit. Et notez la progression ici. Au verset 2, ici, il dit, il parle du sarment qui porte du fruit. Et il les montre pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il porte plus de fruits. Et après, au verset 5, il dit, celui en qui je demeure et en qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Okay. Et puis, si on va plus loin, il y a encore beaucoup de fruits au verset 8, mais au verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, porter du fruit, porter plus de fruits, porter beaucoup de fruits et porter du fruit qui demeure. Il y a une petite progression ici. On voit quand même que c'est ce que vise Jésus quand il parle avec ses disciples ici. Il leur parle et il leur dit, votre mission, c'est d'être fructueux spirituellement. Votre responsabilité de croyant, de chrétien, c'est d'être spirituellement fructueux. Alors là, ici, je note que la mission des sarments est de quoi ? En pointillé ici, est de porter beaucoup de fruits. J'ai mis une grande place, c'est porter beaucoup de fruits, hein. D'accord? À la gloire du Père. Verset 8, c'est ce qu'il dit, non? Voyez bien le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, un croyant qui porte beaucoup de fruits glorifie Dieu, le Père. Et Jésus dit à ses disciples, il faut porter du fruit. Et tout ce que je vous dis là est important pour que vous puissiez porter du fruit, beaucoup de fruits, parce que c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez aussi, mais, ajoute-t-il, disciples. Donc, porter du fruit. Donc, si on regarde Romains 7, verset 4, quelqu'un peut lire Romains 7, verset 4. Quelqu'un d'autre cherche Colossiens 1, verset 6. Quelqu'un d'autre cherche encore Matthieu 13, verset 23. Donc, celui qui a trouvé Romains 7, verset 4, peut lire, hein. Voilà, hein. Donc on peut voir ici que Paul dit que le chrétien, il a la chose ici, il dit vous avez été mis à mort quant à la loi pour que vous apparteniez à Christ, hein, à celui qui est mort et ressuscité, donc il parle de Christ, et pour dans quel but ici, afin que nous portions des fruits pour qui? Pour Dieu. Donc on voit encore ici que porter du fruit est la responsabilité, on peut le mettre comme ceci ici, hein, est la responsabilité du chrétien, pour Romains chapitre 7, verset 4, hein, là, c'est sa mission, c'est son objectif, mais c'est aussi quoi ici, Colossiens 1, verset 6, quelqu'un a Colossiens 1, verset 6? Vas-y, tu peux lire. Voilà. Ok. Très bien. Merci. Alors, c'est qui le il qui est parmi vous ici? Si vous regardez le verset d'avant, c'est l'évangile. Il dit la parole de la. Qui c'est qui apprend le chapitre 1 de Colossiens ici? Hein? Hein? Non, j'ai vu 3. Tu as mis le chapitre 3 pour ton nom. Ah oh, ouais, là-bas. De Colossiens, ouais. Colossiens, je ne sais plus. En tout cas, il dit ça dans. Il dit, au début, il dit c'est l'évangile. D'accord? Il dit que l'évangile qui vous a précédemment fait connaître, il dit, et l'évangile, il s'accroît et il porte du fruit. Donc, j'ai envie de mettre ici que porter du fruit, c'est la nature même de l'Évangile. Le petit trou là, ici, on peut remplir, c'est la nature de l'Évangile. L'Évangile, de par sa nature, c'est porte du fruit. D'ailleurs, on l'appelle aussi la bonne nouvelle, mais ce qu'on met en terre, la bonne semence. Et la semence, c'est fait pour germer et pour porter du fruit. Et puis, au Matthieu chapitre 13, verset 7, qu'est-ce qu'on peut, quelqu'un peut lire ça? Matthieu chapitre 13, verset 23, pardon. Voilà. Et donc, on voit ici, vous rappelez de la parabole des terrains, la semence tombe dans différents terrains, mais il dit, quand la semence tombe dans la bonne terre, celle qui a été préparée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle germe et elle porte du fruit. Alors ici, on pourrait mettre que, aussi, porter du fruit, c'est l'effet de la bonne réception. On pourrait mettre ça ici. Bonne réception de la parole de Dieu. Ici, dans le petit trou, ici. Porter du fruit, c'est l'effet de la bonne réception de la parole. Donc, on voit que cette métaphore de la vigne que Jésus utilise insiste sur la nécessité de porter du fruit. Et sur la fécondité, là, c'est pas juste porter du fruit, mais c'est porter beaucoup de fruits. Donc, il est question ici de la fécondité spirituelle du croyant. Et laquelle fécondité spirituelle, bien sûr, on l'a vu, glorifie Dieu. Et l'apôtre Paul donc le souligne, on a vu ça dans Romains chapitre 7, on a vu Matthieu chapitre 13, ici Colossiens chapitre 1, verset 6. Et si on revient à Jean chapitre 15, regardez le verset 8. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ici. Si vous portez, non, ça c'était, pardon, c'était verset 5, verset 8, c'est si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc l'Évangile ne connaît pas de chrétien qui ne porte pas de fruits. Chrétien porte du fruit. L'Évangile est une semence qui tombe dans une bonne terre, qui germe et qui porte du fruit. C'est comme ça que ça fonctionne. L'apôtre Paul dit, l'Évangile se répand, l'Évangile porte du fruit. L'apôtre Paul dit, voilà, vous avez été mis à mort quant à la loi, d'accord, pour porter du fruit pour Dieu. Jésus dit, si le sarment demeure attaché au cep, il porte du fruit. Il dit même au verset 16, je vous ai établi et afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc, un croyant qui ne porte pas du fruit, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait du fruit et que sa vie se voit par les fruits ici. Alors, ça nous pousse à la question qui est sur le papier ici. Qu'est-ce que porter du fruit? Alors, est-ce que vous avez une petite idée ici? Qu'est-ce que porter du fruit? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela, selon vous? Oui, on peut penser au fruit de l'esprit. On va le voir là, oui. Oui, donc porter du fruit qui est conforme à ce qui est semé. Oui, faut que le fruit corresponde à la semence. Alors parfois, on peut entendre que tel chrétien porte du fruit parce qu'il a un témoignage tel que cela a conduit, par exemple, plusieurs personnes à l'Évangile. On peut dire, voilà, il a un témoignage fructueux, il porte du fruit. On peut parfois entendre ça aussi pour quelqu'un qui écrit beaucoup de livres, chrétiens par exemple, il a un ministère fructueux, il est fécond. Ou parfois ça peut être dire cela par rapport à la riche connaissance de quelqu'un ou son un niveau d'engagement dans l'Église. ou quelqu'un qui, par exemple, visite beaucoup de malades, bah, il a une attitude fructueuse. Mais est-ce que c'est suffisant pour qualifier vraiment la fécondité spirituelle? Bon, ma question, je la posais autrement. Est-ce que ce que Jésus dit ici, c'est, il dit, demeurez attaché au cep afin de porter beaucoup de fruits. Est-ce que l'on peut porter des fruits tels que ceux que j'ai signalés ici sans être attaché à Christ? Non? Est-ce que quelqu'un peut avoir à écrire beaucoup de livres, avoir un ministère fructueux, visiter les malades, être engagé dans son église, sans être véritablement attaché à Christ? Ben oui. Oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver que l'on fasse des choses. On peut prêcher sans être attaché à Christ. On peut être dans la chorale sans être attaché à Christ. On peut être extrêmement engagé et serviable, même à l'église, sans... D'accord. Alors, c'est une espèce de fruit, c'est vrai, mais ça n'est pas suffisant pour qualifier le fruit que Dieu décrit ici. Parce que Jésus, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tout ce que l'on peut faire ici, sans lui, c'est probablement pas ce qu'il appelle le fruit véritable. Et le verset 5 dit ici, regardez le verset 5 encore, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Donc, on va le voir plus tard, mais on voit bien qu'il y a un lien ici entre le fruit qui est porté et Jésus, la relation que l'on a avec Jésus ici. Hein, donc, ça n'est pas juste le fait de faire des choses. Et je connais même quelqu'un qui a conduit presque toute sa famille à Christ et qui elle-même n'était pas chrétienne. Parce que quand sa famille était encore en train de connaître l'évangile, il y avait longtemps que cette personne avait complètement tout abandonné depuis des années et puis n'est jamais revenu ici. Ça arrive des fois. Hein. Elle dit, venez, on peut dire aux gens, venez ici. Et puis, parce que bon, je connais ceci. Et je pense que ma femme, même quand elle a été au Seigneur, c'était une amie qui n'était pas tout à fait convertie, qui l'a invitée dans une réunion où on parlait de l'évangile. Vous voyez. Donc ça peut arriver que parfois des gens connaissent et attirent quelqu'un, mais sans eux-mêmes être vraiment au contact de l'évangile. Donc, il faut faire attention à ce que la Bible appelle ici porter du fruit. Alors, on a dit tout à l'heure, une chose est sûre, porter du fruit, on peut dire que porter du fruit ici, c'est déjà porter le fruit que produit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Galates chapitre, je vous l'ai mis sur le papier, je pense, Galates chapitre 5, verset 22 dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. D'accord? Donc, on peut dire que le fruit dont parle Jésus ici, c'est un petit pointillé, c'est le fruit de l'Esprit ici, qui est décrit dans Galates. En premier lieu. Et vous voyez que ce fruit ne consiste pas en des choses que l'on fait. Ça consiste en quoi? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça parle de quoi, ça? Un tempérament, un comportement, un caractère. Moi, j'ai pensé au mot caractère. Donc, on peut le mettre ici. Le fruit, ici, est donc, en premier lieu, le caractère de Christ. D'accord? L'Esprit, parce que l'Esprit qui vient habiter le croyant, c'est l'Esprit de Christ. L'apôtre Paul le dit dans Galates, il dit, puisque vous êtes fils, Dieu vous a donné l'Esprit de son Fils, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Et la Bible dit que l'Esprit de Christ produit le fruit de l'Esprit dans le croyant. Et Je crois que cela est clair quand on regarde au verset 10 à 11. Regardez verset 10 et 11 de Jean 15, un petit peu plus loin. Il dit, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ici. Hein. » Donc, Jésus dit ici, ce que je vous ai dit là, ici, c'est pour que la joie qui est en moi soit aussi en vous. Et le fruit qu'il attend, c'est que ces chrétiens, les disciples, puissent connaître une véritable joie, une joie parfaite. Et la joie, on le voit aussi, on le sait aussi, c'est le fruit de l'esprit. Ici. Donc, on pourrait dire dans un premier temps, c'est cela, le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Mais aussi, on peut trouver dans la Bible d'autres aspects du fruit qui sont aussi donnés. En Romains chapitre 6, versets 19 à 22. Quelqu'un veut lire ça? Je vais le lire. Romains chapitre 6, vous écoutez, versets 19 à 22, dit « De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. » Et il pose une question, quel fruit portiez-vous alors? La réponse, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Maintenant que vous êtes chrétien, vous rougissez des fruits que vous portiez lorsque vous ne connaissiez pas Christ. Il dit, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour quoi? Pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors moi j'ai une question, quels sont les fruits que l'on portait autrefois et dont on rougit aujourd'hui? Quelques-uns qui sont disciples, les fruits de la chair. Alors on peut dire qu'est-ce que j'ai noté sur mon papier, les mauvaises compagnies que l'on avait hein, parfois, les paroles grossière, hein. Parfois, on a un langage bien épicé, hein. On avait un langage bien épicé. Quoi d'autre? Le visionnage, parfois, de films de débauche. Ça peut arriver. La tenue vestimentaire provocatrice. Ah, c'est des choses. On pourrait rajouter une liste de plus en plus longue. Des choses, quand on y pense, on dit, ah, heureusement que le Seigneur m'a sorti de là. J'étais comme cela. Je faisais ça. Et l'apôtre Paul dit, c'était des fruits que vous portez. En fait, le fruit, c'est aussi ce qu'on trouve dans l'attitude, le comportement, ce que l'on fait. D'accord? Alors, il y a bien sûr le caractère, mais il y a aussi le caractère qui se traduit par le comportement, par nos actes ici, qui peuvent être de mauvais fruits, mais qu'une fois qu'on connaît Christ, peuvent être aussi changent et deviennent de bons fruits. D'accord. Quels sont les bons fruits? Il dit ici que ce sont les fruits de la sainteté. Tout ce qui est pur. D'accord? Tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Donc la sainteté, on avait vu, quand on avait parlé de la sainteté de l'esprit, mais aussi la sainteté du corps. Les deux, hein. Sainteté de l'esprit et la sainteté du corps. Donc, et avec tout ce que cela, comprend ici. Et donc pour nous croyants, hein, porter du fruit, c'est aussi porter du fruit dans ces domaines-là. Rechercher une vie qui soit une vie de sainteté, comme le Seigneur nous le demande. Une sainteté qui se traduit jusque dans le comportement. Jean-Baptiste disait, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc on pourrait rajouter ici, hein, il y a des fruits qui sont conséquents à la repentance. Quelqu'un ne peut pas dire, je suis au Seigneur, je me suis repenti, et il continue dans sa vie comme auparavant. Il y a des fruits qui sont liés à la repentance. Et même l'apôtre Paul a prêché les fruits de la repentance. Parce qu'il a dit, dans Actes, je ne sais plus le chapitre, mais à la fin des livres des Actes, où je crois que c'est Actes 20, où il dit, j'ai prêché la repentance, la foi et la repentance et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà sa prédication. Prêche la foi, la repentance, et aussi au cas où, parce que souvent nous sommes durs d'entendement. Et quand on nous laisse avec la foi et la repentance, on ne sait pas comment traduire ça dans des œuvres qui sont de bonnes œuvres, du fruit à la gloire de Dieu. Et bien l'apôtre Paul dit, il a même prêché quel type de fruit les chrétiens doivent porter. C'est pour ça qu'on trouve des listes dans les écrits de Paul, hein. Fuyez la débauche, l'impudicité, etc. Il cite les choses, hein, les paroles équivoques, les excès de table, etc. Il cite ces choses parce qu'il enseigne aussi ce que sont les fruits dignes de la repentance. Donc, Jésus dit que le croyant a pour mission de porter tous ces fruits-là. La bonté, la droiture, on a mis ça sous le papier aussi ici, hein. Éphésiens 5, verset 9, dit « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Et donc, la mission des sarments, c'est la fécondité spirituelle à la gloire de Dieu. Porter du fruit, beaucoup de fruits qui glorifient Dieu. Ça doit être l'objectif du croyant, c'est de porter des fruits. D'avoir une vie fructueuse, de bonnes œuvres, de choses qui glorifient le Seigneur. Deuxième point, si on tourne la page, quelles sont donc les conditions de cette fécondité spirituelle? Il y a une chose, j'ai mis les, mais bon, il y a une chose peut-être qu'on peut souligner ici, c'est quoi, et qui revient plusieurs fois, c'est le fait de demeurer en Christ, et que Christ demeure en nous. Alors vous allez encore compter, comptez-moi, ici, du verset 1 jusqu'au verset 12, combien de fois il est question de demeurer. Allez, je vais raccourcir votre peine jusqu'au verset 11. Combien? 11 fois, d'accord. 13? On t'a trouvé 13? Ah, je vais mal compter. Jusqu'au 11, hein, j'ai dit.
Ah, jusqu'au
11, pardon. Oui, c'est pas la même traduction. Donc, je crois qu'il y en a 11, hein. C'est ça? À peu près. Bon, je vous fais compter, c'est pour vous faire voir qu'il y en a beaucoup quand même, hein. On pourrait dire 11 versets, 11 fois, il est question de demeurer. Alors, 8 fois le fruit, 11 fois demeurer. Donc, ça veut dire que, voilà, Jésus est en train d'insister sur le fait de porter du fruit, et puis sur ce qu'il faut pour porter du fruit, il insiste encore davantage, c'est le fait de demeurer en lui, demeurer attaché en, alors il le dit de différentes manières, mais demeurer attaché en lui. Et il prend encore là ici, au verset 4, l'exemple du sarment, il dit le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Dès qu'on le détache du cep, qu'est-ce qu'il fait? Il sèche. Ce n'est qu'un bois, qu'un morceau de bois sec. Il doit rester attaché au cep si il veut porter du fruit. Donc, je pense que cette image nous parle bien et il la transfère dans le domaine spirituel. Il dit que le croyant ne peut absolument pas être fructueux s'il ne reste pas attaché à Christ. C'est-à-dire que porter du fruit, c'est pas qu'une affaire de confession de foi. Et de dire, oui, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur et mon sauveur. Et puis c'est tout, et ça s'arrête là. La réalité de la vie chrétienne consiste à demeurer en lien, demeurer connecté avec Christ. Il faut qu'il y ait un lien galvanique, filaire. C'est pas du wifi, hein. On peut pas avoir Christ d'un côté et puis à distance. Non, il faut vraiment qu'il y ait un contact permanent avec Christ pour qu'il y ait une fructification abondante. Alors, qu'est-ce que demeurer en Christ? Ici. Demeurer en Christ, c'est d'abord être en Christ. D'accord? On peut pas demeurer quelque part où on n'est pas. On est d'accord avec ça? Pour demeurer dans une maison, il faut déjà être dans la maison. Donc, pour demeurer en Christ, il faut être en Christ. Donc ça veut dire qu'il faut avoir été racheté, qu'il faut avoir confessé ses péchés, s'être repenti, vivre une vie de foi en Jésus-Christ. Donc c'est celui qui connaît Christ qui peut demeurer en Christ. Je vais passer un peu plus vite. Donc, ensuite, si on lit Jean 8, 31, ou même Jean 15, verset 5 aussi, que l'on a là, ici, qu'est-ce qu'implique donc demeurer en Christ? Deuxième point que j'ai mis ici, demeurer en Christ implique quoi ici? Regardez Jean 15, 5, il dit « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Pardon, c'est le verset 7 et 8. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » D'accord. Et puis, il y avait quelque part d'autre, il me semble. « Comme le Père m'a aimé, aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon... » Non, c'est plutôt le verset 7, pardon, excusez-moi. Le verset 7, oui. Alors, si on regarde le verset 7 ici, qu'est-ce que l'on peut souligner comme... qu'est-ce qui nous donne une indication sur le fait, ce que ça veut dire demeurer en Christ? C'est là, c'est demeurer aussi dans sa parole. Hein. C'est avoir un lien avec la parole de Christ, les paroles de Christ. Mais quel lien ici? Est-ce qu'on peut spécifier ça davantage?
L'obéissance.
Je pense que c'est l'obéissance. Donc on pourrait mettre ici, demeurer en Christ implique l'obéissance à ses paroles. Demeurer en Christ implique l'obéissance à ses paroles. Et Jean 8, 31 dit, Jésus dit aux Juifs qui l'écoutent, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Parfois, il dit, vous demeurez en moi, je demeure en vous. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles. Donc, des fois, il y a beaucoup de manières de le dire. Jésus le dit de beaucoup de manières différentes ici. Mais demeurer, c'est vraiment rester attaché, c'est s'approprier, c'est vraiment lui obéir. Et le vrai disciple fait de la parole de Dieu la joie et l'allégresse de son cœur. Et je l'ai mis ici, le vrai disciple, il se soumet à la parole de Dieu. Quand il l'entend, quand il la reçoit comme la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 2, 13. Je vous cite, hein, il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Donc, demeurer, c'est recevoir la parole de Christ, c'est vraiment obéir à la parole de Christ, c'est avoir un rapport particulier à la parole de Dieu. Et il n'y a pas de lien possible à Dieu et à Jésus-Christ sans passer par sa parole. C'est impossible. Donc, celui qui ne lit pas l'Écriture, ne commence pas par la lecture de l'Écriture, il ne peut pas avoir de relation avec Christ. C'est impossible. Ce n'est que par sa parole qu'on peut le connaître et qu'on peut avoir une relation avec lui. C'est pour ça qu'on vous encourage à lire la parole, à mémoriser la parole, à méditer la parole, à vous exposer à la prédication de la parole, parce que c'est le seul moyen, on voit que Jésus il le dit ici hein, à plusieurs endroits, il dit à ses disciples qu'ils doivent rester attachés à sa parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il faut que les paroles demeurent en vous. L'apôtre Paul disait, dans Éphésiens aussi, dans Colossiens, je crois qu'il le dit, hein, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous. Hein. Il est impossible d'avoir une relation de disciple si on ne connaît pas Christ. Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole. Alors Jésus ne dit pas ici, en parlant de Jean 8, 31 quand même, il ne dit pas que pour devenir un disciple, il faut demeurer dans sa parole. Il dit que celui qui est un disciple, c'est celui qui demeure dans sa parole. D'accord ? Donc, la caractéristique du disciple consiste à demeurer dans la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Donc celui qui ne demeure pas dans les paroles, il montre qu'il n'est pas un disciple. C'est ça que ça veut dire. Il ne dit pas qu'il faut faire des efforts pour espérer être un disciple. Il dit, quand on devient un enfant de Dieu, on est un disciple, et le disciple a pour caractéristique de rester dans la parole de Dieu, et de demeurer dans donc dans sa parole. Ensuite, prochain point ici, hein, demeurer en Christ implique quoi ici? Si on lit le verset 9, le verset 12, 9 à 12 et le verset 17. Qu'est-ce qu'on peut souligner ici? Alors, 9. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Puis au verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ici. Qu'est-ce que Jésus souligne ici? Alors, on va lire peut-être avant ça 1 Jean chapitre 4 verset 11, puisque vous avez lu cela, 1 Jean chapitre 4, très rapidement, 1 Jean chapitre 4. Quelqu'un veut lire 1 Jean chapitre 4 verset 11 à 16? Celui qui trouve, lit. 1 Jean chapitre 4 verset 11. Continue jusqu'à 16.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.
Regardez bien, le verset dit, si nous, quoi, aimons les uns les autres, qu'est-ce qui se passe? Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Continue, verset 13. Voilà, je pense que ça nous donne des explications ici. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici pour remplir nos petits trous là ici? Que demeurer en Christ implique l'amour, hein, je vais mettre ici, envers Dieu et envers qui d'autre? Envers les croyants, les autres croyants, d'accord? Parce qu'il dit ici, les autres croyants de l'Église, parce qu'il dit, aimez-vous, c'est ce que Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Il le dit par deux fois. Et Jean dit encore dans cette épître que nous venons de lire, il montre très bien le lien qui existe entre le fait de demeurer en Dieu, d'avoir Dieu qui demeure en nous, et d'aimer les frères. Donc celui qui n'aime pas son frère, il peut pas dire qu'il a Dieu qui demeure en lui. Donc comment est-ce que nous devons, qu'est-ce que ça veut dire, on pourrait dire que demeurer en Christ, mais ça veut dire que j'aime mon frère, que je cherche la communion aussi des autres, que j'aime me rassembler avec eux, que je prie pour eux, je pense à eux. Il y a cette dimension aussi dans le fait de demeurer en Christ. Et puis, j'ai sauté un, non? Verset 7, ici on va le mettre rapidement. Demeurer en Christ implique une dépendance à Dieu, à Christ, dans la prière. Verset 7 dit assez clairement, il dit, Jésus dit, je reprends Jean 15, et on terminera avec ça, Jean 15, verset 7 dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Donc ici, il montre qu'il y a un lien entre, enfin, que demeurer en Christ implique à la fois une dépendance à Dieu dans la prière, mais assure aussi un exaucement de la prière. Parce qu'il dit, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Celui qui demeure en moi et dans qui je demeure, qui a mes paroles, qui demeure en lui, eh bien, il prie, d'accord? Il demande ce qu'il veut, et cela lui sera accordé. Bien sûr, pourquoi est-ce que ce qu'il demande sera accordé? Est-ce qu'il suffit de demander à ce moment-là n'importe quoi pour que ça soit accordé? Mais non, parce que celui qui a une relation avec Christ véritable, qui demeure en lui, demandera des choses spécifiques. Et en fait, la relation que l'on a avec quelqu'un détermine ce que l'on demande à cette personne. On a toute la relation qu'on a avec quelqu'un détermine ce qu'on demande à cette personne. Je crois que vous êtes d'accord avec ça. Par exemple, vous n'allez pas demander à votre, bon, si vous êtes marié, à votre femme, ce que vous demandez à votre patron, par exemple. Vous pouvez demander à votre patron. C'est pas la même relation. Je vais pas dire à ma femme, bon, j'aimerais bien que tu me fasses une augmentation de salaire. D'accord? Elle prendra le téléphone et puis elle va appeler le service psychiatrique, hein. Elle va dire, il y a quelque chose qui ne va plus très bien ici. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que bon, ben, c'est pas la même relation que l'on a aussi dans cela. Mais aussi, la connaissance que l'on a de quelqu'un façonne ce que l'on demande à cette personne. Et si je reprends encore l'exemple de l'épouse, hein, de la femme, hein, ma femme, par exemple, n'aime pas les serpents. Elle a horreur des serpents. Mais ça, je crois que elle est bien descendante d'Ève, quoi. Hein. Les femmes et les serpents n'ont jamais eu de bons rapports, hein. Et si j'arrive à la maison, je dis, bon, moi, j'aimerais bien, voilà, que tu acceptes ceci. Je voudrais qu'on adopte un serpent comme animal de compagnie. Hein? Ça va, ça va créer des problèmes, d'accord? Et normalement, si je la connais bien, je ne vais même pas demander cela, parce que je sais que ça fait partie des choses dont elle a horreur. Horreur. Et je crois que c'est un petit peu, bon, c'est une image faible, mais c'est une image qui nous permet de comprendre aussi quand Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si on le connaît, et que ses paroles sont connues de nous, nos prières seront forcément façonnées par sa parole et par cette connaissance qu'on a de lui dans sa parole. Et ce que l'on va demander sera conforme à sa parole. Et à ce moment-là, eh bien, on tombe dans le cas de la promesse qui est ici. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé parce que ce sera purement conforme à la parole de Dieu. Et prenez n'importe quel exemple que vous pouvez. Si le Seigneur donne un commandement, eh bien on priera selon ce commandement-là. Quand on est un enfant de Dieu véritable, on prie selon le commandement et selon la connaissance que l'on a de Dieu. Donc Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors je termine en disant, chers frères et sœurs, que Jésus est le vrai cep, car il est le seul qui permette à quiconque demeure en lui de porter du fruit qui demeure et qui glorifie Dieu. Alors j'espère que cela nous aide à comprendre combien, ce sont les paroles que Jésus a dites à ses disciples, hein, combien il est important de faire tous nos efforts pour connaître Christ à travers sa parole et pour prier afin qu'il nous garde attachés à lui, afin que nous puissions grandir vraiment dans cette connaissance, dans cette intimité. Ce n'est que comme cela que nous pouvons porter un fruit qui demeure et un fruit qui est à la gloire de Dieu. Pas de fruit sans intimité avec Christ au travers de sa parole à laquelle on se soumet et on obéit jour après jour. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et nous te demandons que tu agisses en nos cœurs selon ce que tu nous commandes ici dans ta parole. Aide-nous à demeurer attachés à toi, à ta parole, à tes commandements, de les aimer, de les serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci de nous avoir rachetés, de nous avoir soudés à toi, de nous donner ta vie qui produit en nous le fruit à la gloire de ton nom, de nous donner ton esprit qui produit en nous le fruit de l'esprit. Merci Seigneur parce que c'est toi qui accomplis toutes ces choses en nous. Aide-nous à être obéissants et à nous éloigner de tout ce qui ne te glorifie pas et à laisser notre vie façonnée par toi. Merci, ô Dieu notre Père, de nous émonder, d'enlever ce qui est une gêne à notre croissance afin que nous puissions porter encore davantage de fruits. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, comme ta parole nous le commande, et de témoigner ainsi que nous demeurons en toi. Que ton nom soit béni. Amen.